Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poiret.
Avec qui vais-je refaire le monde ce soir sur RTL? Il y a le journaliste Stéphane Blakowski. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Bernard. Bonsoir.
Il y a aussi l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir. Bonsoir Yvan. Et Paolo Levi, le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA à Paris. Paolo, bonsoir.
Buonasera.
À vous trois, je souhaite une très bonne année puisqu'on ne s'est pas vu depuis le 1er janvier. Cécile de Sèze était là vendredi soir, donc pas de nouvelle année pour elle. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Vous êtes celle qui scrute avec une grosse loupe les réseaux sociaux et ce que disent les internautes de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est notamment le fait que le principal syndicat des surveillants de prison a dit d'accord au projet d'accord justement de la chancellerie et du gouvernement pour sortir de l'impasse dans les prisons qui dure depuis une dizaine de jours. Alors donc ils ont dit ok, on va reprendre le boulot lundi matin, c'est promis, c'est juré, et donc probablement les autres, la CGT, Force Ouvrière, etc. auront du mal à tenir le mouvement et vont aussi reprendre le boulot en traînant les pieds. Est-ce que pour autant l'avenir de la pénitentiaire est radieux? Qu'en disent les internautes?
Pas tellement, Bernard. Les internautes n'en doutent pas. Le débat ne fait que commencer, explique Aloès, pour qui tous les problèmes accumulés demeurent. Zara Zara, qui dit être une surveillante de prison, regrette l'accord signé par l'UFAPINSA. Pour elle, c'est un enfant dans le dos et des manipulations politiques. DFR donne des pistes pour améliorer la situation. Pour cet internaute, il faudrait peut-être arrêter de mettre les gens en prison à tour de bras et prévenir la récidive. Sinon, on aura la même chose dans peu de temps. Et il milite pour les peines alternatives qui coûtent moins cher, dit-il. Au contraire, Nassara en a ras-le-bol du laxisme exaspérant envers ces, je cite, voyous délinquants et terroristes bien trop choyés. Mouette moqueuse conclut en citant Victor Hugo: ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons.
Bon, ils sont dubitatifs, les internautes. Je vous rappelle en deux lignes quand même que cet accord prévoit des mesures pour améliorer la gestion des radicalisés, donc les détenus les plus durs en prison, notamment les islamistes, renforcer la sécurité des agents avec du matériel, des gilets pare-balles, des menottes, etc. 1100 emplois supplémentaires créés et une enveloppe de 30 millions d'euros pour les indemnités de rémunération des surveillants. Tout ceci étant dit, une fois que le lait sera retombé, une fois qu'on aura arrêté le gaz sous la casserole, qu'est-ce qui va se passer dans les établissements pénitentiaires? Est-ce que vous voyez, à terme, Stéphane Blakowski, la situation se tasser tranquillement et reprendre son cours?
Je ne vois pas qui pourrait dire aujourd'hui que ça va se tasser tranquillement. On a l'impression qu'il y a des problèmes profondément ancrés, dans les structurels. Enfin, il y a, ce n'est pas nouveau, Urvoas, qui était le précédent ministre de la Justice, avait lancé lui-même un grand plan en disant, de toute façon, le plan que je lance avec des constructions de places, il avait 15 000 places prévues. Il avait déjà du mal à convaincre les préfets qu'il fallait installer de nouvelles prisons, alors que ça paraît indispensable. Et il disait, mais de toute façon, ce genre d'effort, ça doit se... on n'aura pas vraiment des résultats complets avant deux quinquennats. Donc, et forcément, en tout cas, pour ce qui est le problème de la surpopulation, si on veut le régler par construction de nouvelles prisons et de nouvelles places, ça prend nécessairement du temps. Il y a peut-être des choses qui peuvent, en revanche, permettre de faire changer les choses plus rapidement. Si on change, j'entendais des internautes qui disaient faire plus de place aux peines alternatives, développer le bracelet électronique qui est moins développé qu'ailleurs. Ça, c'est peut-être aussi dans ce côté-là qu'on pourrait accélérer un peu, parce que pour ce qui est le reste, le problème des prisons est à la ligne de l'actualité depuis tellement d'années qu'on ne voit pas comment, d'un claquement de doigts, ça pourrait d'un seul coup disparaître.
Moi, j'ai l'impression, au moins dans les pays de l'OCDE, je ne vous parle pas de Manille et du Brésil, mais dans l'OCDE, j'ai l'impression que nous, les Français, on n'arrive pas à solutionner, Yvan Rioufol, d'une façon ou d'une autre, soit en construisant plus de prisons, soit en ayant plus de gardiens, soit en ayant moins de détenus, enfin j'en sais rien, on n'arrive pas à solutionner le problème de la prison, qui en est un vrai, puisque chaque année, on se fait épingler, d'ailleurs, par les autorités européennes, en disant, vous avez des prisons indignes, elles sont moyenâgeuses, c'est scandaleux, etc. Vous ne trouvez pas qu'on n'y arrive pas ?
On n'y arrive pas, mais je ne connais pas bien non plus l'état des prisons des autres pays européens. Mais en tout cas, ce que je crois maintenant et ce qui est discernable, c'est que ce n'est pas un problème pénitentiaire, c'est un problème politique. Et la réponse est un problème politique. C'est pour cela que Mme Belloubet,
la garde des Sceaux,
avec son expertise certainement incontestable, n'est pas sans doute la bonne personne. Et je ne crois pas que la réponse qui est apportée à ce syndicat majoritaire, c'est-à-dire de leur accorder un gilet pare-balles, de prévoir des menottes quand ils sortent les détenus les plus dangereux, etc., suffiront, et des primes, etc., et des emplois. Autant que les emplois, personne n'en veut. Ce sont des emplois qui sont pour l'instant vacants.
Personne
ne les veut tellement ce métier est devenu dangereux. Donc il faut penser à ce qu'est devenu cette prison. Et cette prison, elle est devenue depuis les années 70 ce que la société a voulu en faire. C'est-à-dire que dans les années 70, rappelez-vous, c'était la politique qui voulait que... C'était la politique du syndicat des magistratures, c'était la harangue d'Oswald Baudot qui disait il faut privilégier le prisonnier par rapport au juge, il faut privilégier le prisonnier par rapport au gardien de prison, accorder des droits aux prisonniers, mais en oubliant les gardiens de prison. Donc il y a quand même cet acquis politique qui a fait que les gardiens de prison se sont sentis de moins en moins considérés. Et puis depuis...
Enfin, malgré tout, parce que quand on est condamné, c'est pour les conditions de vie des détenus. Hein. L'un des principaux problèmes en France, c'est la surpopulation des prisons. Donc,
oui, je brosse quand même. Malgré tout, il y a davantage de droits qui sont acquis maintenant aux prisonniers qu'aux gardiens de prison. Donc, il faudrait quand même renverser cette logique.
Je préférerais quand même être gardien. J'avoue que c'est pas clair. C'est pas vraiment.
Non, mais je préférerais pas être gardien. Moi. Et puis surtout, il y a.
Vous voulez être tolard ?
Non, ni l'un ni l'autre. Et bien surtout, non, mais le problème qui est posé aujourd'hui est un problème qui se pose maintenant dans toute la société, qui se pose dans l'éducation nationale, mais qui se pose aux policiers, qui se pose à ceux qui vont dans les cités, c'est-à-dire qu'il est arrivé une contre-société issue de l'immigration, une contre-société qui s'islamise de plus en plus, et ce qui apparaît aujourd'hui, et ce qui devient intolérable pour les gardiens de prison, c'est qu'ils sont la cible d'une sorte de djihad carcéral, c'est-à-dire d'une minorité de ces prisonniers. Les prisons françaises aujourd'hui, c'est 60% de prisonniers qui sont de culture, d'origine ou de religion musulmane, à peu près 60%, et dit-on 80% dans les...
Naturellement,
sachant que les statistiques sont interdites, mais a priori, il semblerait qu'il y ait un consensus pour dire qu'au minimum, il serait 50%, et vraisemblablement 60%. Monsieur Guillaume Larivet a fait un rapport pour dire 60%. Bref, en tout cas, ils sont nombreux, ils sont bien davantage que la population globale française, bien entendu, donc il faut d'abord se poser le problème de savoir pourquoi. Pourquoi il y a ça ? Et au cœur de cette société-là, il y a maintenant, en effet, une radicalisation, un djihad qui s'opère, qui se voit dans des cités, mais qui se voit maintenant dans les prisons. Et ce qui devient irritant, et pour le moins pour les gardiens, c'est qu'ils sont à la cible aujourd'hui de violences commises au nom d'Allah. Puisque maintenant, ce que l'on voit dans tous les témoignages, c'est qu'ils se font d'abord... Il y a des armes qui circulent, donc il faudrait peut-être revoir la fouille au corps. Et puis ces armes sont destinées à tuer, à agresser une autorité. Ils sont une autorité, comme le sont les policiers, comme le sont les enseignants, comme le sont les pompiers.
En l'occurrence, sont les deux dernières agressions donc, qui ont ce que vraiment je veux dire par là, mis de l'huile sur le feu, c'était effectivement
l'ensemble du pays. C'est normal que dans les prisons, ça se manifeste, mais c'est un
ça.
Problème.
C'est pour ça que je dis que c'est un problème
spécifique aux prisons.
Mais c'est précisément ce que je suis en train de dire. C'est un problème qui n'est pas pénitentiaire, c'est un problème qui est politique. Donc si on ne pose pas en préalable ce problème politique de savoir comment on vit et comment on résorbe cette fracture identitaire, et comment d'ailleurs on écarte ces fachos islamistes, eh bien on n'en sortira pas. Et donc c'est ce problème-là qui est posé, donc c'est pour ça qu'on est très loin, me semble-t-il, des gilets pare-balles.
Paolo Lévy, je ne sais pas quelle est la situation en Italie, et peut-être on peut en faire un parallèle avec la France, vous vous en sortez mieux ou pas ?
En tout cas, il n'y a pas eu un tel mouvement chez les gardiens de prison italiens. On n'a jamais vu ça. Donc probablement, ils ont des...
Ils ont le droit de grève, les gardiens italiens ? Parce qu'en France, théoriquement, ils n'ont pas le droit de grève. Donc,
même pas en France.
Ils déposent des arrêts maladie. Bon, voilà.
Oui, voilà. Parce qu'en fait, les gardiens de prison, ils ont un statut spécial. Ils sont censés... pas faire une grève parce que ça met en péril là, et, voilà, ils s'occupent de garantir la sécurité des prisons, donc si le système pénitentiaire sans eux, ils tombent et ce serait très très dangereux, donc il n'y a pas de droit de grève, c'est un statut spécial. Certes, 12 jours, ça commence à faire beaucoup, et aussi on a vu aujourd'hui, il y a un vrai problème pour les prisonniers qui depuis 12 jours n'ont
plus... Il y en a qui n'ont pas pu se laver
voilà,
pendant...
Il y a les
etc.
douches qui ne sont pas accessibles souvent, et ils ne peuvent pas accéder au parloir pour aller parler avec... Donc aujourd'hui, il y a eu 80 avocats qui se sont réunis à Paris en face de la Cour de justice pour dénoncer ces conditions intolérables. Et donc c'est vrai que les gardiens, ils ont raison de protester, mais il ne faut pas oublier... aussi les prisonniers qui voilà souffrent pendant ces...
Et le problème, c'est la surpopulation en France.
Attendez un instant, je donne la parole à Nicolas Georgerot parce qu'on est dans l'extrême fin de la demi-finale de Coupe d'Europe de rugby, n'est-ce pas, entre la France et l'Espagne, de handball.
Il reste encore un petit peu de temps, il reste 6 minutes et 30 secondes.
Parce que j'avais vu quelques secondes là qui s'égrenaient, mais il semblerait que les Français reprennent du poil de la bête.
C'est ça, juste pour vous dire que les Français qui étaient menés 23-14 avec donc une différence de 9 buts en leur défaveur, sont revenus dans la partie à 24-20. Ils sont toujours menés par les Espagnols, donc à 6 minutes de la fin de cette partie. Mais en revanche, c'est encore possible. Il faudra beaucoup de talent et d'être bon encore dans ces derniers instants de la partie. Mais c'est encore possible. 24-20 pour l'Espagne.
4 points de retard et 4 minutes à jouer. Et je ne pense pas que les Espagnols vont se laisser faire. A tout de suite, hein, Nicolas Georgerot, pour la toute fin de cette rencontre France-Espagne. J'ai rien compris à ce que vous avez dit, Paolo Lévy, à part que tout le monde est malheureux en prison en France. Il vous semble que les annonces de Mme Belloubet vont permettre d'avancer vers le mieux ou c'est du pipeau?
Ah ben quand même, elle a fait une ouverture assez importante, ça a été un bras de fer, on l'a insisté jour pour jour et à la fin, disons, elle a quand même annoncé une enveloppe plus lourde, plus alléchante, c'est déjà quelque chose.
Parce qu'ils étaient très fermes sur leur cas,
j'ai la solution, Bernard, j'ai trouvé la solution pour les
prisons. C'est quoi la solution?
Alors vous parliez de comment ça se passe dans les pays étrangers. Alors il y a un pays...
Les Pays-Bas.
Alors non, simplement, ils ont... Vous savez que eux, c'est l'inverse. Leurs prisons sont vides et ils les ferment aux Pays-Bas. Les Belges en sont à louer des places de prison aux Pays-Bas parce que leurs prisons, à eux aussi, sont pleines. Alors c'est quoi la politique des Pays-Bas en 20 secondes, c'est de trouver une manière pour éviter cette fameuse surpopulation. Donc ils ont, par exemple, écarté les gens qui étaient considérés comme malades psychiatriques, qui est un des problèmes des prisons françaises où on mélange encore les gens. Ils ont fait aussi réduit les délais de jugement pour les personnes en situation irrégulière, les étrangers qui viennent, parce que forcément, plus ça dure, plus les gens restent et s'installent dans les prisons, donc c'était une manière de le faire. Et puis, ils ont favorisé des peines alternatives qui sont, d'abord le bracelet, donc ça peut paraître un peu cool, mais aussi les amendes, par exemple. Le montant des amendes a été doublé en quelques années, et donc, au lieu d'incarcérer tout le monde, eh bien, on a trouvé une autre manière d'exercer une politique répressive et le résultat, c'est que les prisons ne sont pas surpeuplées.
Ça, c'est extraordinaire. Je ne savais pas que l'État néerlandais...
C'est le benchmarking. Il faut regarder les autres marques.
Non, stop. 19-29. Maintenant, la pause.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poirette.
Avec Stéphane Blackowski, Yvan Rioufol, Paolo Lévy. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, la divine Cécile de 16. Je vous précise que l'Espagne mène 24-21 dans la demi-finale de l'Euro de handball. Donc plus que 3 points et il reste 4 minutes toujours à jouer, ou un peu moins de 4 minutes. Le problème est le suivant. Les Kurdes, donc, qui ont largement participé à la déroute militaire de Daesh, maintenant se font massacrer par les troupes turques. Alors c'est une vieille histoire, hein. Les Turcs et les Kurdes, ça fait 40 ans qu'ils se mettent dessus. Et les Turcs ont toujours voulu éradiquer les Kurdes. Le problème est le suivant. On a laissé faire les Kurdes en première ligne contre Daesh, nous, les Occidentaux, hein, tranquille, peinard. Et maintenant, on ne fait rien, là. On fait rien. On les laisse se faire massacrer par M. Erdogan. Qu'en pensent les internautes?
Eh bien, sur Internet, ça bronche. Hein, et sur cette question, les avis sont tranchés, pas souvent en faveur du président turc, qui est d'ailleurs parfois qualifié de dictateur. JP se demande quand est-ce que la Turquie d'Erdogan sera-t-elle mise sur le banc de la communauté internationale et dénonce un nouveau massacre sous les yeux du monde qui reste les bras croisés. Taxbo va plus loin. Pour lui, Ankara ne combat pas vraiment le terrorisme puisque l'armée turque aurait laissé faire des djihadistes d'une ex-filière d'Al-Qaïda attaquer les Kurdes sous ses yeux, d'après un article du Monde. Totalement à l'opposé, on a Sami. Il soutient la Turquie et demande même à M. Erdogan d'élargir l'offensive jusqu'à Damas, la capitale syrienne. Idriss, lui, espère que Erdogan ira encore plus loin et détruira tout le PKK.
Bien. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je vous en prie, Paolo Lévy. Est-ce qu'on, nous, occidentaux, on se conduit en dessous du lamentable dans cette affaire?
Mais écoutez, c'est un vrai casse-tête et c'est un dossier extrêmement complexe. Les Kurdes sont considérés par la Turquie, mais même par l'Union européenne, notamment le Parti des travailleurs kurdes, une organisation terroriste.
Oui.
Alors,
c'est... Le PKK.
Pas les Kurdes. Il y a ce mouvement qui est affilié au PKK, qui n'est pas exactement le PKK. Lui, il n'est pas sur la liste noire des terroristes. Et c'est les Kurdes syriens qui ont beaucoup contribué effectivement à battre Daesh. Donc pendant qu'il y avait la bataille et la guerre plus en général contre l'État islamique, c'était... On ne pouvait pas trop le dire, mais c'était nos plus grands alliés. C'est-à-dire, c'est vraiment eux qui ont donné le coup de grâce définitive à ce mouvement de djihadistes épouvantable. Aujourd'hui, on assiste effectivement à ce spectacle assez gênant où, d'un côté, ces Kurdes syriens cherchent en quelque sorte de s'installer parce qu'on est en train de redessiner en quelque sorte toute la carte de l'avenir de cette région du monde. Et eux, ils cherchent de s'installer vraiment à la frontière, là, dans le nord-ouest de la Syrie.
Ils ont toujours rêvé de créer un État du Kurdistan, transfrontalier.
Oui, c'est une poche. Il n'y a pas de continuité territoriale, ça c'est important de le dire. Et c'est aussi cette petite poche une des seules régions où il y a vraiment une grande majorité kurde. C'est pas mélangé, c'est vraiment eux. Ouais. Ceux qui, en quelque sorte, fait venir des frissons à Erdogan, qui donc a réagi tout de suite depuis le 20 janvier, parce qu'il ne veut absolument pas une, voilà, ce qu'il considère des terroristes vraiment chez lui, presque sur le palier de chez lui. Et aujourd'hui, on insiste effectivement à une communauté internationale qui est dans l'embarras plus total. On a vu Emmanuel Macron l'autre jour, il a quand même publié un communiqué où il dénonçait la situation humanitaire, la nécessité urgente, immédiate de créer des couloirs. Mais il a aussi, dans le même communiqué, souligné le droit de la Turquie de veiller à sa sécurité. Donc
on ne fera rien.
Donc on fera rien. Je dois dire que l'actuel gouvernement sur les Kurdes, il est encore plus moins protectif que celui de François Hollande, qui avait été dans la région, qui avait reçu des représentants kurdes. Là, on fait vraiment de la réelle politique avec Erdogan. Il ne faut pas oublier qu'avec Erdogan, on a signé, les Européens,
des accords d'accueil de réfugiés syriens.
Très, très important d'accueil de réfugiés syriens. Lui, il a accueilli beaucoup de réfugiés provenant de Syrie. Et donc, aujourd'hui, c'est la réelle politique qui prime. Et les Kurdes, effectivement, ils sont laissés un peu seuls, ce qui est...
Stéphane Blakowski, comment vous voyez les choses?
Le mot est dit, hein, réelle politique. D'ailleurs, quand on dit nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, je ne sais pas si vous parlez de nous... Nous, la France, notre position, on n'est pas du tout une pièce importante sur le jeu du théâtre sur place. Quoi. Les seuls qui peuvent éventuellement tenir tête aux Turcs sont les Américains, et c'est compliqué.
C'est leurs alliés.
C'est leurs alliés au sein de l'OTAN, mais en revanche, en fait, la Turquie est alliée avec la Russie, qui est, au contraire, l'ennemi des Américains. Donc, effectivement, je suis comme Paolo. Moi, ça m'indigne aussi. J'ai peut-être pas la voix qui tremble comme vous, mais si on devait engager, nous, des soldats français pour défendre les Kurdes, je pense que ça ne se ferait pas en France. J'ai cru comprendre, et je suis loin d'être un spécialiste, ou alors un spécialiste de cet après-midi, parce qu'avant je n'y connaissais pas grand-chose, que les Américains aimeraient bien installer des bases ou des soldats ou des troupes dans le nord de la Syrie, et que du coup ils s'appuieraient volontiers sur les Kurdes, et qu'à un moment... ils sont les seuls à pouvoir tenir tête à Erdogan, je crois, j'ai cru comprendre.
Alors, je vous donne la parole, Yvan Youfol, dans un instant. Je crois, Nicolas Georgerot, que la messe est dite en ce qui concerne le handball, n'est-ce pas?
Oui, ça vient de se terminer. L'équipe de France ne jouera pas sa quatrième finale d'un championnat d'Europe. Défaite face à l'Espagne, 27-23. La faute, notamment, à une première période totalement catastrophique, puisqu'il y avait 15-9 à la pause. Donc, victoire de l'Espagne.
Voilà, l'Espagne va en finale de l'Euro de handball et pas la France. Merci beaucoup pour ce fil rouge, en tout cas, Nicolas Georgerot. Yvan Youfol, les Kurdes tout seuls, débrouillez-vous mes amis kurdes contre le méchant turc, et puis voilà, nous on s'en moque, c'est bon.
Quelle honte, j'espère que non, parce que les Kurdes, il faut tout de même le rappeler, les Kurdes d'Irak ou de Syrie ont été les alliés les plus loyaux de l'Occident, les plus loyaux. Ils partagent avec nous une même conception à peu près de la laïcité, ils partagent avec nous une conception de l'égalité entre l'homme et la femme. On a vu souvent ces femmes kurdes très courageuses prendre les armes et tomber sous le feu d'ailleurs des islamistes, et ce sont eux qui ont participé en effet... à l'échec de Daesh. Eux qui ont participé à l'échec de Daesh, qui ont donc participé à l'échec d'un totalitarisme.
Et une autre protection, indirectement.
Et une autre protection, parce qu'en plus, parmi ces Kurdes-là, notamment les Kurdes d'Irak, beaucoup d'entre eux protégeaient les chrétiens d'Orient. Donc on a vraiment une dette énorme avec eux. Et donc il y a un problème moral colossal. Paolo a très bien décrit, en effet, quelle est la réelle politique. Je n'ai rien à redire à cela. En effet, il y a cela. Mais on ne peut pas oublier, malgré tout, ce qu'ils ont donné. Et on ne peut pas oublier non plus ce que donne l'image, pour l'instant, Erdogan, à travers son offensive vis-à-vis de ceux qui défendent le monde libre, pour être clair, où il se dévoile de plus en plus comme étant notamment un tyran, et un tyran qui commence à donner ses armes aux islamistes. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il est parmi ses alliés aujourd'hui. Il y avait à nouveau ces islamistes d'Al Nostra.
Les États-Unis et la France ont détruit pas mal d'armes aussi.
Les islamistes d'Al Nostra, oui, bien sûr, du temps d'Obama. Mais je peux, en tout cas, avec Trump, on peut lui faire beaucoup de greffes, mais en tout cas, avec Trump, les idées sont plus claires. Et Trump, alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais... De voir Erdogan chasser ces Kurdes avec en alliance avec ces islamistes d'Al-Nostra, en l'occurrence, et peut-être d'autres, et donc de faire une guerre à front renversé, alors que l'Occident se réjouit, et moi aussi, d'avoir vaincu Daesh, et donc avec le risque, dans le fond, de réactiver Daesh, je trouve ceci épouvantable. On a connu ça avec les accords de Munich, quand on a lâché
une
nos
vieille alliés, histoire de l'histoire.
Une vieille histoire, et c'est un petit peu cette pente-là que nous sommes en train de...
Je pense à la phrase « Monsieur Hitler n'est pas un gentleman » qui
Voilà. Ouais. Et c'est un peu cette. C'est un peu cette
politique-là que nous sommes en train de reprendre. Et cela m'effraie, cela m'épouvante. Je suis d'une indignation vraiment. Je pourrais avoir les voix qui tremblent. Et j'espère en effet qu'en tout cas les Américains, sinon l'Europe, mais qu'en tout cas les Américains vont mettre un coup d'arrêt. Hein. Mais en même temps, ce terreau est très sensible, bien sûr, parce que si l'on voit un affrontement entre les États-Unis et la Turquie, membre de l'OTAN, c'est-à-dire membre d'une organisation malgré tout qui est gérée par les États-Unis, cela risque de faire des dégâts. Mais je ne peux pas imaginer que l'on puisse lâcher à ce point des alliés qui nous ont tant aidés.
Ben vous avez beau ne pas l'imaginer, en tout cas c'est la réalité qui va se produire, je vous le garantis. Je mets un billet. 19h41 sur RTL, troisième thème dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h, on refait le monde avec Bernard Poiret.
Messieurs Blakowski, Rioufol et Lévy, vous aurez une minute chacun pour vous exprimer sur le troisième thème. En l'occurrence, aujourd'hui, s'est ouvert un procès, le procès de la CGT qui attaque Air France dans l'affaire de la chemise déchirée de l'ancien DRH d'Air France. C'était, vous vous souvenez, il y a quelques années, ça avait fait les images, le monde entier avait vu le gars avec sa chemise déchirée. La CGT attaque Air France en disant que Air France a porté atteinte au droit de grève dans cette affaire-là. Bon, le problème n'est pas le sujet du jour du procès. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a rappelé ce matin sur cette antenne que les 5 gars de la CGT qui ont été virés d'Air France à l'époque comme étant reconnus, comme étant les coupables de l'affaire de la chemise, ont tous été recasés par la CGT au syndicat du livre. Donc ils travaillent dans une imprimerie à côté de Paris et donc ils sont devenus en quelque sorte imprimeurs, entre guillemets. Ça m'a bien fait marrer, d'autant qu'ils sont beaucoup mieux payés qu'ils n'étaient à Air France. Donc la question que je pose et que je vous pose, Cécile de Sèze, c'est que disent les internautes de tout ça? Est-ce que finalement la CGT, c'est la meilleure des protections sociales?
Oui. Vive la CGT, ironise Alain, hein, qui trouve à l'époque cette nouvelle bonnement scandaleuse et appelle à dissoudre les syndicats. Sur l'ouverture du procès ce matin contre Air France pour atteinte au droit de grève, les internautes se demandent qui sont réellement les agresseurs dans cette affaire. Honteux est l'adjectif qui revient le plus souvent pour décrire la CGT dans cette histoire. Napo résume le sigle CGT par cancer généralisé des travailleurs. Un internaute tente tout de même d'apporter un point de vue opposé pour Papillon. Le patronat aussi est violent chaque jour.
Oui, c'est bien de le rappeler quand même, hein, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc dans chaque bord. Une minute chacun, Stéphane Blakowski.
Bon, moi je comprends que ça vous agace. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'indignation, qu'il faudrait dénoncer quelque chose. Moi, je comprends les mecs de la CGT. Voilà, c'est un syndicat de combat. Ils sont dans le rapport de force pour défendre les salariés, pour défendre surtout ceux qui sont à la CGT. Le fait de, ils n'ont rien fait d'illégal. Sinon, j'imagine qu'on leur serait déjà tombé dans une affaire comme ça. On aurait cherché à les condamner ou à faire annuler ça. Ouais, le fait qu'il y ait une solidarité entre eux et que on puisse un peu par titre symbolique dire, regardez ces gens-là qu'on a voulu mettre dehors. Nous, on les soutient comme on fait, je sais pas, des caisses pour les grèves, comme on montre qu'on se serre les coudes. Bon, voilà, je sais pas, c'est vrai que le syndicat du livre, c'est à la fois le. C'est, oui, paraît-il qu'il faut voir un peu le parking où se garent les véhicules, parce que il y a peu d'ouvriers qui sont aussi bien payés, et que les voitures allemandes sont plus réputées que les autres.
C'est certain que nos confrères de la presse écrite,
ils ont des statuts exceptionnels, et je pense que ça va agacer Yvan Rioufol qui travaille dans la presse écrite et qui en souffre.
Une minute, Yvan, je vous en prie.
Oui, ce sont des pratiques d'apparatchik, ce sont des pratiques de mafia syndicale. Moi, je trouve ça insupportable. C'est une sorte de franc-maçonnerie d'autoprotection. En effet, on peut très bien comprendre leur logique, mais cette logique-là est une logique d'ancien régime. C'est une logique qui est particulièrement choquante. C'est une logique qui use et qui abuse de privilèges de la part d'un syndicat qui est a priori conçu pour dénoncer les privilèges et qui se sucre en premier. Donc je trouve que cette pratique n'est plus tolérable. Je ne comprends pas comment elle existe encore. Et cela repose le problème, en effet, de la perpétuation de ce syndicalisme-là tel qu'il a été conçu, qui est financé d'ailleurs non pas par les syndicats mais ni par les cotisants, mais par nous-mêmes, par les pouvoirs publics, par les entreprises, etc. Donc il y a des abus de pouvoir, c'en est un parmi d'autres que l'on connaît de la part de la CGT, et il y a des motifs d'indignation qui sont plus graves, mais celui-ci en est un bon, en effet.
Donc on va voir si le quinquennat Macron va s'attaquer à cette problématique-là aussi. Je vous en prie, Paolo Lévy.
Bah, écoutez, toute cette histoire est tellement romanesque depuis le début que ça m'étonne pas du tout qu'il se soit reconverti à la littérature. D'ailleurs, on attend un prix Goncourt, pourquoi pas.
Non, c'est pas la littérature. Vous avez une écriture.
Voilà, voilà, ils sont censés imprimer des journaux.
Entre l'imprimerie et la littérature, il y a encore un petit saut,
mais ils ont déjà pas mal virevolté.
Mais tout part de Gutenberg, en tout cas.
Tout est possible, tout part de Gutenberg.
19h47, quatrième et dernier thème. Je les ai un peu cravachés, là, les polémistes, parce que je voulais qu'on ait un petit peu de temps pour le dernier thème. C'est l'affaire du Nutella. Vous savez qu'Intermarché a baissé les pots de Nutella de 900 grammes de 70%. Émeute, les gens se sont battus, littéralement, pour pouvoir en acheter. Ça dit quoi de la France d'aujourd'hui? À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Bernard Poiret.
Bon, j'ai tout dit de ce thème juste avant la pause publicitaire, donc je me tourne vers vous, Cécile de 16. Que disent les réseaux sociaux de cette affaire de Nutella et d'émeute au Nutella? Que disent les internautes?
Bah, pas grand-chose de bien joyeux. Hein. Maître Mot, un avocat qui est très suivi sur Twitter, souligne que finalement, ces personnes ne se sont pas battues pour du Nutella, mais parce que 3 euros, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens. La voilà, la tristesse. Sous le pseudo Agent 140, cet internaute résume. Des personnes aux moyens parfois limités se battent pour acheter de la merde vendue à prix d'or, sous le regard hautain de ceux qui se pensent au-dessus de cette OP marketing nulle. De la merde à prix d'or, c'est l'avis de beaucoup d'internautes qui critiquent le produit lui-même. Du poison, du sucre, Aurélie conseille alors de passer au caramel Clément, lui qui ne tue pas les orang-outans. D'autres préfèrent prendre la nouvelle avec humour. The Greater Boy se moque du slogan d'Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouais, c'était avant le Nutella, ça.
Avant le Nutella, pour les orang-outans, il faut peut-être expliquer qu'en fait, c'est fait avec de l'huile de palme, le Nutella, et tout ça vient d'Indonésie et de Malaisie, où on coupe les forêts où vivent les orang-outans pour faire du Nutella, enfin, etc. Bon, alors, je vous rappelle que Intermarché, au lieu de 4,50, a vendu le pot de 950 grammes à 1,41€, 70% de décote, ce qui pose des tas de questions, parce qu'ils sont vendus à part ou pas, j'en sais rien. Paolo Lévy, ça dit quoi de la France d'aujourd'hui?
Vous qui êtes italien, qui vendait du Nutella.
Vous qui vendait du Nutella à l'huile de palme.
Oui, tout d'abord... Il faut dire que nous, les Italiens, on mange beaucoup moins que les Français. Vous êtes champions avec du monde. Les Allemands, vous êtes les champions du monde de Nutella. D'ailleurs, si vous l'aimez tant, je vous invite à revoir peut-être ce film de Moretti où Nanni Moretti, dans Bianca, complètement nu, la nuit se réveille et va manger dans un pot immense, gigantesque de Nutella pour... Oui, pour se consoler de ses peines d'amour. Mais mis à part ça, c'est une autre contradiction française. Aujourd'hui, on assiste à Lyon à cette grande messe solennelle où on célèbre l'art de vivre à la française, la table dressée, et exactement comme il faut.
Patrimoine mondial de l'humanité, la cuisine française, la gastronomie française.
La cuisine et tout. Et après, t'as les gens qui se ruent pour acheter des pots de Nutella.
Une autre Mais ceux qui ont acheté le Nutella ne sont pas allés manger chez Bocuse.
Voilà, oui, c'est tout le problème est là, c'est-à-dire que l'impression est qu'aujourd'hui il y a vraiment une césure entre une gastronomie extraordinaire mais accessible seulement aux privilégiés et en revanche des produits de supermarché bradés à 1,40€ ou voilà, tout le monde
c'est ce que disait le premier internaute
d'ailleurs. Prêt à se bagarrer pour
3€ de décote sur un pot, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens.
Donc ça fait rire mais ça doit aussi nous conduire à une vraie réflexion et bon moi les Italiens sont très très souvent critiques envers leur pays. Moi, je suis le premier à en dénoncer toutes les faiblesses. Mais effectivement, chez nous, je dois dire, ce qui me manque le plus en France, c'est exactement ça. C'est cette gastronomie de rue qui maintient quand même une qualité très, très bonne
et qui
n'est pas nocive pour la santé et qui est accessible à tout le monde. Elle est très démocratique et qui manque de plus en plus aujourd'hui en France. D'ailleurs, c'est le seul pays où McDonald's continue à progresser, alors que chez nous, ça ferme. Ça n'existe presque plus, McDo,
c'est etc. très juste ce que vous dites.
Et donc voilà, aujourd'hui, on a les deux France. On a d'un côté Bocuse, et donc cet héritage extraordinaire, patrimoine de l'UNESCO, et de l'autre côté, notre produit Nutella, qui est considéré chez nous vraiment
comme un très bas de gamme.
Très bas de gamme, et que nous-mêmes, on n'achète presque plus. Et voilà, dans les supermarchés français, on a assisté.
Comment voyez-vous les choses?
Sur le fait que, attention, le fait de critiquer les gens qui se sont battus ou qui se sont jetés là-dessus, ça serait être hautain ou se moquer de gens pour qui 3 euros est important. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, même qu'on soit pauvre, riche ou pas, le comportement est complètement débile, quoi. Le fait d'aller se battre pour du Nutella, de se battre pour des trucs qui sont mauvais pour la santé, tout le monde le sait. Et en plus, est-ce que c'est vraiment pour se nourrir qu'on achète du Nutella? Pas forcément. De ce que je lis, c'est des gens qui, au contraire, cherchaient à faire des stocks pour aller les revendre ailleurs, tellement le prix était bas. Donc, je veux bien que
certains ont peut-être essayé de faire un peu de bénéf là-dessus. Pas forcément la majorité.
Ouais, mais... Je comprends, hein, le fait de dire, attention, on évite dans ces cas-là, dans celui, bah oui, c'était assez bien dit, les gens hautains qui n'ont pas de problème d'argent et qui se permettent de rigoler de ça.
Mais moi, imaginez les mères de famille qui sont sous la pression de leur marmaille,
qui achètent du Nutella,
qui adorent
leur dit non,
le Nutella, mais qui ne peuvent pas s'en passer au
quotidien. Elles ont tort, on n'achète pas de Nutella, des pots de Nutella à ses enfants, c'est tout ce que je peux leur dire, c'est pas parce que il y a certainement pour le même prix des choses meilleures à acheter, c'est l'américanisation de notre société, c'est-à-dire que on est sur des pots de grande quantité comme on les voit aux États-Unis, des opérations commerciales. Je regardais là quand ils ont le Black Friday, il y a un site qui recense les accidents depuis 10 ans. Donc il y a eu je sais pas combien, 9000 blessés et 10 morts parce que on spectacularise le truc, on fait des ouvertures de portes, les gens se jettent, il y a eu un mort à New York. Donc on est un peu dans cette espèce de promotion à l'américaine qui rend le pire de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire le fait où on est juste sur les grosses quantités, on est sur des trucs qui poussent à l'obésité. Enfin, je vois pas comment on peut dire aux gens que c'est une bonne chose d'acheter du Nutella.
Et vous, Yvan Youfol, qui êtes le grand amateur du Nutella, je le sais.
Oui. Moi, je pense qu'il faut se garder de tomber quand même dans le travers du misérabilisme. Vous n'êtes pas tombé dans ce travers du misérabilisme, mais j'entends les commentaires dire que ce sont un peu des scènes que l'on peut voir dans des pays du tiers-monde, que c'est la pauvreté qui se manifeste, que c'est vraiment odieux, que l'on voit à quel point, effectivement, les Français sont à 3 euros près pour bénéficier de ces promotions-là. Moi, je fais remarquer que je pense qu'il n'y aurait pas eu ces scènes-là si, au lieu de la peau de Nutella, on avait proposé des pots de yaourt ou des pots de cornichons. Enfin, je veux dire, donc c'était le produit Nutella lui-même. Donc, un objet de marketing qui a suscité des envies. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement cette crise sociale qui serait sous-jacente, c'est plutôt cette crise culturelle, cette imbécilité de la foule, dans le fond, à être prêt et avec violence à se battre pour un pot de Nutella dont il a très bien été décrit, qui s'est en fait une dégueulasserie. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est cette création de faux désirs, de fausses envies, de faux besoins, et qui arrivent à mobiliser des foules, et des foules qui sont perméables. Alors peut-être, en effet, aussi, peut-être des foules qui sont pauvres, je ne dis pas du tout le contraire, mais surtout des qui sont perméables à des manipulations marketing, à des manipulations culturelles, et ça me paraît beaucoup plus inquiétant que ce que l'on voudrait décrire trop facilement en disant que la France est aujourd'hui un pays qui a trop de pauvres. Non, bien sûr, il y a évidemment des pauvres.
Mais les gens se battent pour aller chez Apple aussi, ils se battent pour aller à l'ouverture
de chez McDonald's. On s'est battu pour un produit qui n'est pas un produit essentiel, et on ne se serait pas battu pour acheter des couches-culottes.
Accessoirement, ça pose un problème aussi de vente en dessous de la marge, hein, parce que 70%, les concurrents d'Intermarché se disent comment ils ont fait. Est-ce qu'à 1,41 le pot de 950 grammes, ils font encore du bénéf? Ça pose encore ce genre de questions.
En tout cas, l'expo de Milan, la France, donc dans le pavillon français, il y a 2 ans, avait enfourné la plus grande longue baguette du monde, 122 mètres, qui avait été toute complètement tartinée de Nutella. Donc, voilà.
On croyait vous faire plaisir, c'était pour flatter les...
On n'a pas fait un jambon beurre parisien.
Non, vous avez fait 122 mètres de baguette avec Nutella pour célébrer l'alliance franco-italienne, l'amitié franco-italienne. toute l'exposition universelle s'est ruée sur le pavillon français, exactement comme
pour voir la baguette de 120 mètres.
Non, pour la voir, mais surtout pour en bouffer, quoi, pour en profiter.
Donc, Stéphane Blakowski, Yvan Youfol, Paul Olivier, Cécile De Seize étaient avec moi au micro ce vendredi soir pour tenter de refaire le monde comme il se doit. Je vous retrouve demain matin, 7h, pour la présentation de la matinale. Et dans un instant, juste après la pause, il y aura bien entendu le flash de 20h. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.